France Inter, le 18-20.
Il y a 50 ans, marcher sur la Lune, c'était toute une histoire, un exploit évidemment, mais c'était surtout pour les Américains une façon de montrer à l'URSS, comme on disait à l'époque, qui était le plus fort. Depuis, la Lune est toujours ce symbole au fond, elle avait presque perdu de son intérêt, elle était rentrée en hibernation, voilà que ça revient. Il n'y a rien à faire, la Lune a toujours un potentiel de fascination et d'attraction pour nous tous. Les Chinois ont posé tout récemment sur sa face cachée un petit robot qui s'appelle Lapin de Jade. Il blogue, il va essayer notamment, paraît-il, de planter des patates. Les Américains imaginent une station orbitale qui servirait de hub pour aller plus loin, une sorte d'escale finalement. Et nous, les Européens, des horizons bien plus lointains, on pense aux minerais qu'on pourrait bien aller exploiter. Il n'est plus question évidemment aujourd'hui de faire marcher des hommes ou des femmes, ça c'est déjà fait, déjà vu, mais qu'est-ce qu'elle a donc encore à nous apprendre, cette Lune, qu'est-ce qu'on ne sait pas qu'il faut creuser, y compris au sens propre du terme? Elle est faite de quoi, au fond? Est-ce qu'on sait tout de sa formation? La Lune, ça marche toujours à grands pas pour l'humanité, donc parlons-en.
Fabienne Synthès. Le téléphone sonne.
Anne, bonsoir, soyez la bienvenue, au téléphone sonne.
Oui, bonsoir à tous. Écoutez, je trouve, oui, la science, d'accord. D'ailleurs, merci à la tête au carré. Je trouve que moralement, nous n'avons pas le droit d'envisager exploiter une planète. Aller l'étudier, pourquoi pas. Mais on a bousillé la planète. Moralement, les hommes ne sont pas sages. On n'est pas assez évolué pour se permettre d'envisager ça. Moi, honnêtement, ça me choque.
Eh ben, écoutez, on a bien compris, Anne, ce que vous disiez. Et vous n'êtes pas la seule. Il y a beaucoup d'appels comme ça qui parlent non seulement de notre possibilité ou pas d'exploiter, mais aussi le nombre de choses qu'il nous reste à faire sur Terre avant d'aller au-delà. Donc, on va aborder aussi ces sujets-là ce soir jusqu'à 20h au téléphone sonne pour vous répondre, Anne, répondre à tous et discuter ensemble. Isabelle Sourbès-Verger est là. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes géographe, vous êtes chercheur au CNRS, au centre Alexandre Coiré, c'est ça?
Coiré,
voilà, c'était l'un ou l'autre. Spécialiste des questions de géopolitique de l'espace et des questions spatiales. Bonsoir Sylvestre Maurice.
Oui, bonsoir.
Vous êtes astrophysicien à l'Institut de Recherche en Astrophysique et Planétologie de Toulouse. Vous êtes d'ailleurs à Toulouse, on remercie au passage Stéphanie Glézis qui reste avec vous pour vous tenir la main. Et Sophie Bécherel est là, bonsoir Sophie.
Bonsoir.
Spécialiste de sciences évidemment ici à Radio France. Isabelle Sourbès-Verger, alors on ne parle pas encore de coloniser, mais c'est vrai que c'est des mots qui reviennent peut-être aussi dans nos fantasmes vis-à-vis des planètes et notamment de la Lune. On comprend ce qu'elle veut nous dire, Anne, en même temps. Attention à ce qu'on est en train de faire après ce qu'on a fait à la Terre.
Oui, tout à fait. Après, je pense qu'il y a une espèce de transposition spontanée qui fait qu'on va employer des mots comme colonisation.
Exactement.
Parce qu'on ne sait pas trop quel autre mot employer. Et ça, je pense que c'est tout à fait redoutable. Et c'est bien qu'on pointe du doigt ce genre de problème. Il y a des réflexions sur la question de l'éthique en matière spatiale. Il y a aussi une réflexion sur le domaine juridique, même si concernant la Lune, elle est malheureusement pas très aboutie. Mais
bien sûr, parce que si on trouve quelque chose, ça appartient à qui? C'est ça la question ou...
Alors, il y a déjà la question de si on s'installe sur la Lune, est-ce qu'on s'y installe de manière temporaire? Est-ce qu'on peut prétendre avoir une part de territoire? Est-ce qu'on peut imaginer que c'est un petit peu comme le Far West, vous vous posez, donc premier arrivé, premier servi? Bon, il y a peu de chances qu'on en soit là. On imagine plutôt de partir sur des traités type l'Antarctique ou l'Arctique, bon, éventuellement d'autres pistes qui seraient sur l'exploitation des fonds sous-marins, voyez, donc il y a beaucoup de questions qui se posent. Maintenant, il faut bien quand même se dire que si on exploite la Lune, et je pense que c'est quand même un horizon assez lointain, c'est pas tout à fait pour demain, ce qui serait peut-être le plus important, c'est de savoir justement de quelle façon on conçoit cette exploitation et par rapport à quel but. Est-ce que c'est pour permettre à une station lunaire de vivre un petit peu plus en autarcie, et quel est l'objet de cette station lunaire? Et c'est là-dessus qu'on est encore, je dirais, face à un inconnu beaucoup plus grand à la limite que la description de la Terre elle-même.
Et c'est vrai, et alors on ne peut pas en vouloir, Sylvestre Maurice, aux gens qui nous écoutent, mais on a des images de films de science-fiction en tête, en fait. C'est de là que vient la question toute naturelle de Anne et les autres. Mais au fond, pour vous, à quoi elle sert? Pardon, je vais le dire comme ça. À quoi elle sert, la Lune, en fait? Est-ce que c'est une base de départ vers autre chose? Est-ce que c'est quoi?
Oui. Non, ça, c'est une très, très bonne question. À quoi elle sert? Et quand même, je dois remercier votre auditrice parce qu'elle a dit OK pour la science. Bon, mm-hmm. Donc, elle sert. Et elle a raison. Cette lune sert à faire de la science. Chez nous, les planétologues, on l'appelle la pierre de Rosette. C'est un peu notre compréhension de l'histoire du système solaire. Avec un axe bien particulier, c'est celui de l'origine. Comment se construit une planète? Eh bien, c'est à ça qu'elle sert, la lune. À nous faire comprendre notre passé. Alors, votre auditrice, en même temps, elle a raison. Elle dit, bon, c'est moralement l'exploiter. Isabelle Sourbès-Verger vient d'en parler. L'étudier, il y a encore beaucoup de choses, effectivement, à comprendre de cette Lune. Des endroits où on n'est pas allé, comme le pôle, sur la face cachée. Les Chinois viennent tout juste de mettre un pied au bord d'un énorme cratère d'impact qu'on appelle Aitken Basin et qui est fondamentalement intéressant pour comprendre ces plus gros cratères d'impact dans le système solaire. Donc, encore beaucoup, beaucoup de bonnes sciences à faire. La Lune reste scientifique, mais on le voit maintenant avec tous ces engouements pour une exploration habitée durable, eh bien, elle va devenir bien plus que de la science.
Sophie Bécherel, est-ce qu'on peut expliquer d'ailleurs ce qu'ils font les Chinois? Qu'est-ce qu'ils ont découvert? Qu'est-ce qu'ils ont vu? Qu'est-ce qu'ils nous apprennent avec leur petit robot sur la face cachée?
Ils n'ont encore rien découvert. Alors... et je ne sais pas s'ils nous apprendront des choses, mais Isabelle Sourbès-Verger pourrait vous le dire, c'est quand même hautement symbolique ce qu'a fait la Chine. N'ayant pas encore les capacités scientifiques des nations occidentales qui ont la maîtrise de la technologie spatiale, la Chine rattrape son retard et son petit robot n'a pas la sophistication d'un robot de la NASA par exemple. Néanmoins, c'est quand même effectivement la première nation qui s'est posée sur la face cachée, ce qu'aucun autre pays n'avait fait. Et en ce sens, c'est un symbole fort.
Alors pourquoi on l'avait jamais fait, d'ailleurs? Puisque c'est en gros, parce que je disais au début qu'il y avait quelque chose de très géopolitique, justement. En effet, quel intérêt d'aller sur la face cachée si on ne la voit pas? Non, mais je pose la question très, très sérieusement. Est-ce que c'est ça la raison pour laquelle on n'avait pas été de ce côté-là?
Je dirais que c'est un petit peu différent. C'est quand vous êtes une nouvelle puissance spatiale, même si la Chine est une grande puissance spatiale, elle arrive, vous le faisiez remarquer, bien après les États-Unis et bien après la mission Apollo. Donc il faut trouver quelque chose qui n'a jamais été fait, à la fois en termes de reconnaissance sur le plan intérieur et puis sur le plan international. Dans la mission suivante, la Chine pense ramener des échantillons. Eh bien, des échantillons de la face cachée de la Lune, on n'en a jamais eu. Donc, en soi, ça présente un intérêt scientifique et ça crédibilise, si vous voulez, la politique spatiale chinoise. Ça la justifie d'un point de vue scientifique qui reste encore aujourd'hui quand même, comme le disait Sébastien Maurice, la meilleure des justifications. Et cette mission chinoise, elle est compliquée parce que quand vous êtes sur la face cachée, ben par définition, et c'est pour ça que les autres ne l'ont pas fait, pour communiquer avec la Terre, c'est vraiment difficile. Donc, elle a réalisé une autre première technologie qui est de mettre un satellite de télécommunication à une distance qui lui permet d'être en permanence en relation avec la Terre et la Lune et qui était très lointaine au point de Lagrange. Et ça, c'est encore une autre première technologique.
Sylvestre Maurice, je sais que vous trépignez de l'autre côté du poste.
Non, je trépigne pas. C'est très intéressant ce que font les Chinois. C'est plus que symbolique, Sophie. Il a dit, mais c'est un peu plus que ça. Ils ont fait comme un exploit technologique, comme peu de pays l'ont fait. Alors, souvenons-en, les Américains se sont posés sur la Lune, d'abord avec des machines, et puis après avec des hommes. Les Russes, à l'époque, vous aviez dit, des Soviétiques se sont posés avec des machines. Ils ont même fait un retour d'échantillons. Les Européens ne l'ont jamais fait. Gardons ça à l'esprit. Les Chinois, sur la Lune, passent devant nous. Ils se mettent au niveau des Américains et des Soviétiques d'antan. Les Soviétiques, les Russes ont un peu disparu. Donc, maintenant, on retrouve une Lune où il y a deux acteurs principaux, les Américains et les Chinois, un peu à l'exemple, j'imagine, de ce qu'est le monde politique aujourd'hui. Une très très belle mission, pas de science, au fil l'a dit, effectivement, ils ont raté la science et ils le savent. Ils ont conscience, ils disent les prochaines missions seront scientifiques. On avait d'abord besoin de prouver qu'on avait la technologie et c'est fait. Très impressionnant, je vous signale que U2, le petit lapin de jade, s'est réveillé. Il a passé la nuit. Alors la nuit sur la Lune, il fait froid, ça dure longtemps, ça dure 14 jours. Face cachée, pas face à l'ombre. Évidemment, la Lune tourne sur elle-même à la même vitesse qu'elle tourne autour de la Terre, s'il fallait le rappeler, c'est-à-dire en 28 jours. Et donc, sur cette face cachée, il y a des moments où il fait beau et des moments où c'est la nuit, ça dure 14 jours. Et là, on est descendu jusqu'à moins 190 degrés. C'est un petit peu plus froid que les modèles qu'ils avaient. Bon, ça dépend du sol sur lequel on est. La boîte s'est en quelque sorte refermée et puis ils ont laissé passer la nuit. Et puis là, le jour vient de se lever et depuis quelques jours, ça reprend vie. C'est très, très spectaculaire d'un point de vue technologique.
Mais quand on dit, le fameux lapin de jade, il amène des graines de pommes de terre et des vers à soie. Je dis ça sans plaisanter. Est-ce que ça sert pour le marketing, au fond? Est-ce que c'est des choses qui sont attractives pour les gens parce que on a envie de savoir un peu ce que c'est que cette histoire, que ça nous fait fantasmer, ou c'est vraiment très sérieux?
Là, la science est un petit peu ratée. Ils voulaient, Isabelle l'a dit, ils voulaient trouver leur
vous
petit créneau.
Sophie Bécherel.
Ils voulaient trouver leur créneau à eux, c'est-à-dire ils voulaient être différents. Et donc ils ont dit, est-ce que je peux avoir une idée originale? Ouais. Et l'idée originale, c'était de faire une sorte de boîte à gants étanche dans lequel ils feraient pousser, comme un jour le feront les hommes, feront pousser des graines. Bon, depuis on a appris que la boîte à gants s'était un peu éventée pendant la croisière et donc finalement tout était mort avant d'arriver sur la Lune. C'est pas de la science terrible. C'est vrai que c'est original, ça avait jamais été fait, mais ça va pas révolutionner la science. Et disons-le encore, les Chinois, c'est de la techno avant tout.
Sophie Bécherel, vous vouliez ajouter quelque chose?
Je voulais dire quand même, parce que j'entends à l'enthousiasme de Sylvestre Maurice, alors que les Chinois communiquent quand même assez peu. Nous avons regardé juste avant l'émission les dernières nouvelles du petit robot Lapin Jade. Il ne nous parle pas tous les jours, hélas. Il ne fait pas des photographies tous les jours, alors que la NASA ferait ça.
Rosetta, etc. On avait fait des kilos.
Mais effectivement, l'histoire des petites graines, vont-elles germer? Vont-elles survivre aux températures extrêmes, etc.? Ça arrive tout de même à passionner. C'est vrai qu'il y a une forme de personnalisation très très forte de la part de la communication chinoise qui est assez intéressante parce que c'est anthropomorphisé presque l'histoire du lapin Jade.
Isabelle Sourbès-Verger.
Oui, et ils l'avaient déjà fait sur leur première mission. YouTube. Et on a d'ailleurs pas su au départ si c'était vraiment mis en place par la communauté spatiale chinoise ou s'il a été dit que c'était un internaute passionné qui avait fait ça. Bon, on peut quand même imaginer qu'il était au moins bien introduit dans ces cercles-là. Et en tout cas, le premier Lapin Jade, justement avant sa première nuit lunaire, avait fait un message très pathétique parce qu'il y avait quand même déjà quelques petits problèmes qui apparaissaient, disant qu'il allait s'endormir, qu'il savait pas s'il se réveillerait, mais qu'il espérait, etc. Et ça avait un petit côté de manga japonais qui était extrêmement étonnant et on retrouve ça sur YouTube 2 dont on espère quand même que la vie sera un petit peu plus longue et c'est assez étonnant dans cette représentation et scénarisation de la mission chinoise.
Serge nous pose cette question, il est dans les Hautes-Alpes, il nous dit quand bien même on trouverait des matériaux intéressants sur la Lune, quelle que soit l'échelle et l'échéance, comment les ramener sur Terre? Est-ce qu'on a déjà pensé à cette éventualité ou pas du tout? Isabelle Sourbès-Verger.
Bon, c'est-à-dire que les ramener sur Terre, c'est pas forcément la meilleure des solutions. Peut-être que l'idée, ça serait plutôt d'essayer de les utiliser sur place. Moi, je pense que ça ferait partie déjà dans une première étape, ça aurait du sens. Après, honnêtement, récupérer des matériaux sur la Lune, c'est extrêmement, extrêmement compliqué parce que les techniques de forage, la nécessité de faire ça en souterrain ou sous coiffe, et puis le coût monstrueux parce que finalement, aller sur la Lune ou ramener quelque chose de la Lune, c'est le même coût. Et donc, on imagine mal quel serait le modèle économique qui justifierait d'aller forer la Lune. Si ça peut rassurer notre première auditrice, c'est peut-être justement ces limites-là qui vont encore protéger la Lune pendant un certain temps.
Sophie ?
Ce qui est assez tout de même étonnant, c'est que bien qu'on conçoive assez facilement les difficultés d'aller exploiter les ressources minières potentielles de ces objets célestes, certains pays y croient, les États-Unis ou plus récemment le Luxembourg. Donc Barack Obama avait changé le Space Act pour autoriser en fait quiconque trouverait des réserves minières sur un astéroïde ou un objet céleste à les posséder. Le Luxembourg lui a emboîté le pas et des sociétés donc sont sur ce créneau. Alors que vous voyez la difficulté déjà de se poser sur un astéroïde, on se dit de là à exploiter ce qu'il y aurait à l'intérieur, on en est très très loin. Et étrangement, il y a des sociétés qui lèvent des fonds pour ça.
Alors justement, et plus ou moins dans la même veine d'ailleurs, on a cette question de Fabien de Limoges, est-ce qu'on pourrait un jour construire des bâtiments sur la Lune, y faire des sortes de centres de recherche qui là pour le coup seraient habités par les humains?
Oui.
Isabelle Sourbès-Verger.
Le village lunaire, c'est quelque chose que justement d'ailleurs l'Agence spatiale européenne met en avant. Et il y a plusieurs types de structures qu'on peut imaginer. Ça peut être des structures gonflables et puis ça pourrait être surtout, et on se dirige vers par là, une ville souterraine qui serait complètement, qui profiterait de la structure géologique de la Lune. Bon, ça fait beaucoup rêver. Ça passionne même des grands constructeurs du BTP qui ont des petites cellules de réflexion.
Ah, quand même. Donc on est vraiment à ce stade-là.
Bon, après, c'est quand même aussi beaucoup du papier. Hein. Il faut bien voir que tant que vous payez le salaire de gens qui sont en train de réfléchir avec un, même si c'est un ordinateur, ça coûte quand même pas très cher et c'est pas du tout des phases de réalisation. Donc, on peut lever des fonds pour de la réflexion. On n'est pas en train de lever des fonds pour de l'exploitation.
Thibault nous appelle au 01 45 24 7000. Bonsoir Thibault.
Oui, bonsoir.
Soyez le bienvenu.
J'avais une petite question sur l'utilité d'aller exploiter le minerai de la Lune parce que selon les modèles mathématiques de sa création, il y a très peu de métal sur la Lune. Et s'il n'y a pas de métal, pourquoi aller exploiter du minerai et essayer d'en extraire quelque chose?
Eh ben voilà, une question simple et néanmoins rapide et directe, c'est pour vous, Sylvestre Maurice. Qu'est-ce qu'on peut répondre à Thibault?
Effectivement, quand on regarde, il a raison, la formation de la Lune. Alors, je rappelle que, n'oublions pas que la Lune est un morceau de la Terre. Ça, c'est une vieille histoire d'il y a 4,56 milliards d'années. Quand la Terre est percutée par une planète qui s'appelle Theia. Donc, on va sortir la Lune. Et effectivement, elle est un peu plus légère en son densité. Elle a moins de matériaux lourds. Donc, il a raison. Il y a peut-être globalement moins de métaux, mais ils sont plus concentrés. Alors, pour revenir, d'ailleurs, toutes les questions se rejoignent sur ces ressources de la Lune. N'oublions pas qu'on a mis des priorités, quand même. D'abord, les ressources, c'est pour la Lune. C'est-à-dire, on voudrait exploiter la Lune pour permettre de faire vivre en quasi-autarcie des gens à la surface. Et donc, on va d'abord extraire de l'oxygène, parce qu'il faut bien les faire respirer. Ça, on peut le trouver dans les minéraux, dans les glaces. Et puis, justement, quelques poudres métalliques qui permettront de faire de la propulsion, et puis de l'eau. Donc, tout ça, tout ce qu'on peut extraire de la Lune, c'est d'abord pour vivre sur la Lune. Jusqu'à, effectivement, faire des habitats, des constructions. Il y a de l'aluminium, du fer, du titane, du silicium.
C'est tellement facile, Sylvestre Maurice, quand vous nous le racontez comme ça.
Ouais, c'est facile, mais on y réfléchit vraiment. Il y a une graduation, Effectivement, tout le monde l'a dit, c'est pas demain qu'on va ramener quelque chose sur Terre. Et faut nous enlever cette idée-là de la tête. L'avenir de l'homme, c'est la Terre. C'est pas la Lune, c'est pas Mars. Donc, on va protéger notre Terre à nous. Si un jour, on va chercher de l'eau sur la Lune, un astéroïde, c'est vraiment qu'on s'est mal débrouillé. Je pense pas qu'on le mérite d'aller le chercher ailleurs. Donc, on va protéger notre Terre.
Ce sera sûrement trop tard à ce moment-là. Enfin bon.
Ouais, c'est trop tard. Mais une fois qu'on se sera dit, il faut d'abord réussir à vivre de façon durable. Souvenez-vous, les Apollo, c'est je descends sur la Lune, je marche, je repars. C'était pas une exploration durable. Maintenant, on veut rester. Pour rester, il va falloir trouver sur place de quoi construire éventuellement, et Isabelle vient de le dire, de quoi construire, par exemple, faire du béton, faire du verre avec les ressources. On appelle ça ISRU, ça veut dire l'exploitation in situ des ressources. Donc on est encore très loin de ramener quelque chose sur Terre.
Mais Isabelle Sourbès-Verger, au fond, Apollo, que rappelle Sylvestre Maurice, c'était politique, Apollo. Désormais là, on est dans des idées beaucoup plus scientifiques, en fait, et peut-être que ces 50 ans, il nous a fallu au fond 50 ans pour passer du purement politique d'aller sur la Lune au purement scientifique et pratique, non ?
Apollo, c'était politique à cause du contexte, mais quand même, ramener des échantillons de la Lune sur la Terre, c'était scientifique. Et les premières cartographies de la Lune, même les cartographies des Soviétiques, la première fois qu'on a vu la face cachée de la Lune en 62 avec la première sonde soviétique qui prenait les photos de la face cachée, c'était scientifique et c'était politique parce que c'était l'époque des premières. Là où les États-Unis, je dirais, ont fait un programme et ça a beaucoup porté dommage à la science, c'est d'avoir voulu le faire aussi vite et de ne pas avoir réfléchi à ce que serait la suite, puisque en fait, ça a été une mission, on y va, on finit Apollo, et même le dernier vaisseau Apollo, c'était tellement mal pensé qu'on savait plus quoi en faire et qu'on en a fait une rencontre avec les Soviétiques dans Apollo Soyuz. Donc, si vous voulez, ça c'est l'exemple, le mauvais exemple de l'utilisation politique. Mais sinon, en soi, aller sur la Lune, c'était quelque chose qui fascinait aussi bien les Russes, et s'ils ont continué des missions et s'ils ont ramené des échantillons en mode automatique, c'est bien qu'il y avait autre chose que l'intérêt politique. Mais c'est vrai que et les médias américains ont beaucoup aussi insisté sur cet aspect-là, qui était le renouveau et le leadership américain dans le monde.
Sylvestre Maurice, vous voulez réagir, et puis après j'ai une question spécifiquement pour vous, Monsieur Maurice. Allez-y d'abord.
Alors je réagis très rapidement. Effectivement, la science était le passager clandestin, en quelque sorte, de cet engouement,
c'est
de
ça,
cette
c'est
bataille
joliment dit,
plutôt.
Effectivement.
Voilà, et ça va de cette bataille entre les Russes et puis les Américains. Et l'avenir sera la même chose. L'avenir, ça sera de l'exploration, tout simplement pour. On est dans les explorateurs du 15e siècle. On veut rapporter des connaissances, des opportunités. Il y aura de la science, mais il y a de la techno. Il y a peut-être un modèle économique qu'on voit pas bien venir, des améliorations sociétales, il y a toujours un retour d'innovation sur la Terre, très clairement, et puis toujours la politique est là, c'est vraiment la synergie entre différents moteurs, les Américains appellent ça les drivers, les moteurs qui vont nous permettre tous ensemble de profiter les uns des autres. Personne ne sera leader, je pense que la science sera là toujours en embuscade, et je pense qu'on en tirera des belles infos.
Tiens, puisque la science est en embuscade, une question scientifique de Pierre de Massy, vous l'avez un tout petit peu dit, mais c'est important de le répéter. Pourquoi se fait-il qu'il y ait une face cachée de la Lune? Elle ne tourne pas autour d'elle-même, alors, point d'interrogation, nous demande Pierre. Racontez-nous pourquoi il y a une face cachée.
Alors, oui, effectivement, ça, il faut se rappeler un peu que quand vous avez une nouvelle Lune, par exemple, qui est éclairée, ça veut dire que de l'autre côté, il fait sombre. Et puis, quand la Lune est nouvelle, c'est-à-dire elle est noire chez nous, de l'autre côté, côté, eh bien, elle éclaire. Donc déjà, la Lune est toujours éclairée d'un côté ou de l'autre, donc elle tourne forcément par rapport au Soleil sur elle-même. Il se trouve qu'avec les effets de marée, on parle assez peu des effets de marée, eh bien, la Lune est ce qu'on appelle coincée par rapport à la Terre. C'est-à-dire qu'elle va montrer toujours la même face. En fait, on l'a un peu déformée comme un ballon de rugby et on l'empêche de tourner sur elle-même. Ça, c'est les effets de marée. N'oubliez pas, on a cette liaison absolument unique que sont les marées entre la Terre et la Lune.
Encore une question purement scientifique, elle vient de Jeanne Delisle. Vous avez aussi partiellement répondu, vous nous avez parlé de la fameuse collision et du petit bout de terre. Des scientifiques, nous dit-elle, suédois et australiens, pensent avoir trouvé donc dans un échantillon lunaire un petit morceau de terre. Est-ce que c'est vrai? Et qu'est-ce que ça dit donc de la formation de la Lune?
Excellent. Donc c'est quelqu'un qui est au courant d'une découverte très récente dans les collections Apollo. Il faut savoir qu'on n'a pas regardé tous les échantillons Apollo. On en a gardé la moitié en 10 ans. Après 50 ans, il y a des nouvelles technologies, des nouveaux scientifiques qui ont probablement des idées et ils font encore des découvertes. Ils ont découvert un zircon qui est plus vieux que le plus vieux des zircons qu'on a sur Terre. La Terre est une planète jeune, elle a le même âge que la Lune, mais elle recycle sa surface en permanente, la tectonique, l'érosion du vent, l'érosion de l'eau. Et alors donc on n'a rien d'ancien, on n'a pas de vieux cailloux sur la Terre. Et sur la Lune, ils sont beaucoup plus vieux. Il y en a un qui est tellement vieux, il ressemble beaucoup à celui de la Terre qu'on pense que c'est une météorite qui s'est échappée de la Lune, de la Terre et qui est tombée sur la Lune. C'est en fait, une pierre de terre qui est sur la Lune. C'est très, très intéressant. Et je voudrais dire en ça qu'il y a beaucoup de gens qui réfléchissent. Et je vous donne un petit exemple. Très simple. En ce moment, vous savez, dans les classes de première, il y a ce qu'on appelle les TPE. Alors nous, les scientifiques, on est très contents parce que ça leur fait faire de la science. Et je reçois beaucoup de demandes en ce moment sur la Lune parce que c'est effectivement l'année de la Lune. Mmh. Et des élèves assez malins m'ont posé la question, et si la Lune n'existait pas, comment serait la Terre? Eh bien, c'est très très belle idée parce que ça nous permet de revoir tout ce qu'on sait de la Lune. Eh bien, j'enlève la Lune. Eh bien, je m'aperçois que beaucoup de choses qu'on vient de dire ne tiennent plus. La Terre tourne beaucoup plus vite et donc ça changerait la vie sur Terre. Ces fameux océans, ces fameux couplages, il n'y aurait plus d'effet de marée, par exemple. Mm-hmm. La biologie serait différente. Donc cette Lune, encore une fois, c'est un couple Terre-Lune et on vient de le prouver récemment puisqu'on a réussi à trouver une pierre de Terre sur la Lune. C'est très très beau.
En voilà une autre question, elle vient d'Isabelle de Nantes. D'ambitieux milliardaires, Elon Musk, Richard Branson, etc. sont décidés à aller sur la Lune avec notamment des passagers. Est-ce un véritable enjeu économique, Isabelle Sourbès-Verger?
Non, économique, ça je pense pas. On ignore exactement quand est-ce qu'ils seront capables de le faire. On ne sait pas quel sera le degré de sécurité. Et puis, ça ne peut concerner qu'une infime partie de l'humanité. Et là, quelque part, c'est peut-être un petit peu gênant parce qu'on parlait des explorateurs du 15e siècle, etc. Certes, les explorateurs, il leur fallait de l'argent. Mais les gens qui partaient sur les bateaux, c'était pas les gens les plus fortunés. C'était les gens qui étaient les plus hardis et qui avaient le plus envie d'aller découvrir quelque chose et qui payaient de leur personne. Là, partir parce qu'on a des milliards de dollars qu'on peut dépenser pour aller faire un voyage lunaire et revenir, c'est pas du tout l'image qu'on se fait de l'exploration et du côté héroïque et fondateur des gens qui iraient sur la Lune. Donc à ce titre-là, je pense que c'est un curieux modèle et il n'est pas très inspirant, pour reprendre une formule anglaise.
Sophie ?
Alors que pour une mission martienne, on parle d'une union des nations parce que ça va coûter cher, ce sera compliqué. Pour quelle raison on n'a pas cette ONU de la Lune? C'est-à-dire, on ne sent pas ce sentiment de rassemblement des nations pour proposer un projet universel d'exploration ou quelque chose sur la Lune. C'est chacun, il va de son côté, on sent encore une compétition.
Oui, alors je pense qu'il y a plusieurs raisons. Il y a une raison historique qui fait qu'effectivement, on a quand même ce passé de la concurrence entre les États-Unis et l'Union soviétique qui a marqué tout le monde. Ensuite, je pense qu'il n'y a pas non plus des défis qui sont aussi importants que les défis pour aller sur Mars. Et effectivement, on voit bien, la Chine, elle peut faire une expérience technologique sur la Lune. C'est de l'ordre du possible.
Toute seule.
Donc du coup, effectivement, pourquoi ne pas le faire? Et en plus, pourquoi ne pas montrer sa capacité avec d'ailleurs l'espoir d'être reconnu comme un partenaire à part entière pour une prochaine mission qui serait vers une mission martienne. Donc ça, je pense que c'est un élément important. Mais on voit quand même, par exemple, si on regarde le projet européen du village lunaire, l'idée que on pourrait servir précisément, parce que nous, Européens, nous n'avons pas fait ces programmes en autonome, on pourrait essayer de servir pour fédérer une forme de vie un peu plus internationale, un peu sur le modèle de la Station Spatiale Internationale, sauf que celle-ci excluait beaucoup beaucoup de monde, dont les Chinois, dont les Indiens, etc. Mais je pense que cette idée de valoriser différemment la Lune, c'est certainement une étape qui risque quand même d'être un petit peu incontournable, et je ne pense pas qu'on puisse imaginer d'avoir des bases totalement distinctes. Alors, elles seront géographiquement distinctes, parce que chacun essaiera d'aller explorer des endroits différents, mais j'imagine quand même qu'il y aura une forme de réseau, et on voit mal la science se développer sans quand même derrière ce type de réseau.
Sylvestre Maurice, il y a une question subsidiaire à celle d'Isabelle qui nous parlait de d'Elon Musk et de Richard Branson. C'est Didier de Nogent-sur-Marne qui voudrait savoir comment vous, justement, les scientifiques, les astrophysiciens, comment vous les voyez, ces gens-là? Est-ce qu'au contraire, ce sont des gens qui vous aident à avancer, ou est-ce que ce sont des gens qui vous encombrent, au fond, ces grands milliardaires?
On les connaît peu, hein, faut être très honnête.
Ils viennent pas vous voir.
Non, vous donnent pas, vous donnent pas leur argent. Ils font du bien à tout le monde. Ils font, vous savez, pour un engouement si grand, il faut pas simplement des politiques, il faut pas simplement des scientifiques, il faut tout le monde, il faut des populations, hein. C'est des choses qui vont coûter très cher, qui invariablement viennent des impôts de tous nos concitoyens. Et donc, il faut un engouement populaire. Et eux, ils vont aider cet engouement populaire. Alors, effectivement, souvent, ils mettent des dates qui sont pas réalistes, ils poussent un peu loin finalement la faisabilité de la technologie, mais ils aident. Donc nous, on les apprécie pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des gens qui nous font, qui font naître cet énorme engouement qui fait qu'on va y aller tous ensemble. Alors je voudrais quand même revenir sur la partie tous ensemble, parce que ça, c'est très intéressant. On se demande tous, reprenons le passé, on célèbre les 50 ans, si les Américains seraient arrivés sur la Lune en 10 ans, absolument extraordinaire, s'il n'y avait pas eu les soviétiques pour les pousser. Eh bien, probablement non. Eh bien, l'avenir sera peut-être ça. C'est cet équilibre entre la collaboration internationale où on se dit, on va se dire chaque année, bon, on est tous d'accord, on reporte d'un an, donc chaque année, on va prendre un an de retard, ou bien ce petit aspect de compétition et qui dit que, bon, faut quand même que j'arrive plus vite et mieux que le voisin, et on voit cette compétition entre les Chinois et les Américains qui peut finalement profiter au système. Voilà, c'est ce que je voulais quand même dire. C'est important, et les scientifiques, on y est très sensibles. La compétition est un ressort extraordinaire de motivation.
Isabelle Sourbès-Berger.
Oui, et en même temps, cette histoire de la compétition sur la Lune, elle est finalement assez mal connue, parce que on parle peu d'une proposition que Kennedy avait envisagé de faire à l'Union soviétique, à savoir d'y aller ensemble. Et ça, c'était quand même très intéressant. Et bon, il a été assassiné peu de temps après, donc si vous voulez, le problème a été réglé. Et c'était une proposition relativement perverse, parce qu'il s'agissait à la fois un petit peu d'écraser les Soviétiques. Les Américains savaient très bien qu'ils avaient une capacité de management, et surtout qu'ils avaient un argent qui était énorme par rapport à ce que l'Union soviétique pouvait mettre. Et donc, si vous voulez, en leur proposant d'être partenaires, c'était quand même déjà un moyen à la fois de s'informer sur ce qu'ils faisaient et puis de les tenir un petit peu en soutien. Et puis, il y a autre chose qui est quand même très intéressante, c'est qu'à cette époque, il y a un transfuge soviétique qui s'était réfugié en Angleterre et qui était extrêmement surpris en arrivant en Angleterre de voir que tout le monde était convaincu qu'il y avait une compétition farouche et que les États-Unis étaient vraiment à chaque fois obligés de se dépêcher parce que les Russes les talonnaient. Et lui avait proposé un ouvrage, un éditeur qui était le bluff soviétique, et lui, sa thèse, c'était de dire mais pas du tout, il n'y a pas un soviétique qui pense qu'on peut réellement gagner les Américains, on est très loin derrière, on a des tas de problèmes d'organisation, on a des problèmes de budget et tout. Et ce livre avait été refusé par l'éditeur anglais, qui ne voulait à aucun prix entendre parler de ce type d'ouvrage au pic de cette compétition. Et ce qui est très amusant, c'est qu'ensuite, une fois qu'on a vu qu'il n'y avait pas de soviétique qui arrivait, qu'il n'y avait pas d'hommes soviétiques, il est revenu voir l'éditeur en lui disant « Bon, alors maintenant, on le publie ou pas mon livre ?» Et l'éditeur a publié le livre, mais alors je peux vous dire que c'est confidentiel comme diffusion, hein, quasiment personne ne connaît cet ouvrage, mais on peut le trouver sur Internet, ça s'appelle « Russian Space Bluff ». Et en publiant cet ouvrage, du coup, ce soviétique l'a interprété comme « Ah mais vraiment, la propagande soviétique est trop forte d'avoir réussi à convaincre comme ça les Américains. » En fait, je pense que c'est surtout, les Américains avaient très besoin de continuer à dire qu'il y avait ce compétiteur. Parce que si eux, derrière, dépenser des sommes folles qu'ils ont dépensées avec malgré tout une absence de suite d'un programme et avec un passager clandestin, c'est l'expression effectivement est jolie, de la science, ça n'avait plus de justification. Donc il y avait le fait qu'on voulait croire que effectivement cette compétition avec l'Union soviétique, elle était sur le fil du rasoir, alors qu'en réalité l'Union soviétique très vite, à partir de 1966, pour des gens bien informés, on savait bien qu'elle était loin en arrière.
Mais donc, aujourd'hui encore, comme le dit Sylvestre Maurice, Isabelle Sorbès-Verger, vous pensez que la compétition est une vraie émulation pour chacun d'entre nous, pour chacun des pays réellement? Parce qu'il y a moyen d'avoir une compétition, ça coûte extrêmement cher d'aller sur la Lune, ça coûte extrêmement cher, pardon de le dire comme ça, d'aller sur Mars. Donc on comprend bien qu'on peut jouer une compétition sur un domaine qu'on ne peut pas jouer sur l'autre.
Oui, en même temps, je pense qu'effectivement, la compétition, c'est-à-dire le fait que pour la Chine, aller sur la Lune va lui donner un retentissement médiatique mondial et que vous allez même trouver des journaux américains qui sont suffisamment angoissés à l'idée de cette concurrence avec la Chine pour aller écrire que la Chine est prête à damer le pion des États-Unis, ce qui est complètement faux parce qu'ils sont encore très très loin de pouvoir faire ce genre de choses. Vous imaginez bien que sur le plan de l'intérêt et du bénéfice médiatique de Xi Jinping et de la crédibilisation de son rêve chinois et de l'image d'un leadership chinois qui pourrait succéder aux États-Unis, c'est absolument fantastique. Donc oui, ils vont continuer des missions lunaires, ne serait-ce que pour ça. Et du coup, tout le monde en profitera. En même temps, je pense que si les médias occidentaux se comportaient pas comme ils se comportent et avaient une vision peut-être un petit peu plus nuancée de ce qu'est la réalité de l'expérience chinoise, bon, peut-être que du coup...
C'est-à-dire
que ce que je veux dire, c'est que les Américains ont absolument besoin de refaire ce schéma du compétiteur.
C'est ça.
Et il y avait à une époque...
On jouait à se faire peur.
Et puis surtout, déclencher le politique. Il y avait, il y a quelques années, un sénateur américain qui disait que c'était scandaleux de baisser le budget de la NASA de 1 milliard de dollars parce que, du coup, ça allait permettre aux Chinois d'arriver les premiers sur la Lune. C'était il y a quasiment 10 ans. Mais ce qui était magnifique, c'est que 1 milliard de dollars, ça représente presque rien dans le budget spatial américain qui est de l'ordre de 40 milliards de dollars, mais à l'époque, ça représentait le quart du budget spatial chinois. Donc, comment pouvait-on écrire que 1 milliard, c'est-à-dire le quart du budget spatial chinois, ça allait faire la différence? C'était totalement absurde. Donc, il y a cette volonté des États-Unis de donner à l'adversaire potentiel une image incroyable pour redéclencher un réflexe politique qui est de dire, bah oui, on y va et donc, on met de plus en plus d'argent et on aura de plus en plus de réussite. Et là-dessus, effectivement, Sylvestre Maurice a raison, il y a bien quelqu'un qui en profitera et ça, c'est le bon côté de la chose.
Tiens, Sylvestre Maurice, peut-être que vous allez vous arracher les cheveux avec ces questions, mais c'est marrant parce que ça déclenche ce genre de choses, la Lune. Alors, très vite, une étude américaine, il y a souvent des études américaines qui disent des choses, on ne sait pas très bien d'où elles sortent, a affirmé récemment que la Lune avait une influence sur le sommeil. Est-ce que c'est vrai ou pas? C'est ce que nous demandait Erwan de Brest. Et Patricia Duvar, dans le même ordre d'idée, nous parle du cycle de rotation de la Lune. Aurait-il une influence sur les fluides végétaux et corporels? Pourquoi dit-on que la Lune énerve. Qu'est-ce qu'ils en disent, les astrophysiciens, Sylvestre Maurice, de ce genre de choses?
Ils sont bien embêtés avec les astrophysiciens.
J'imagine bien, ouais.
Parce que ça échappe à toutes les lois de la physique que l'on connaît. C'est-à-dire que l'attraction que vous avez en ce moment gravitationnelle entre les trois personnes que vous êtes dans le studio est infiniment plus forte, bien plus forte que celle de la Lune. Donc, ce qu'on pense, nous, c'est que directement, il n'y a pas d'effet qu'on comprenne, en tout cas, qui suivent les lois de la physique que l'on connaît. Ceci dit, il faut faire très attention, il y a des croyances, il faut jamais les négliger. Prenez le Moyen-Âge, au Moyen-Âge, vous baladez dehors, il n'y a pas d'éclairage urbain. Le seul éclairage, c'est la Lune. Alors les gens sortent à la pleine Lune, et puis c'est des moments forcément où il y a plus de crimes, parce que les gens sont dehors, et donc on associe les loups-garous à la pleine Lune, etc. Donc il y a des croyances populaires qui se font, les croyances des bébés qui naissent à la pleine Lune, ben, c'en est une. Il suffit de prendre dans un hôpital, vous prenez toutes les naissance, c'est assez facile, vous faites des outils mathématiques pour trouver s'il y a une périodicité de 28 jours et vous la trouvez pas. Quoique, les femmes disent, oui, on leur a tellement dit qu'à la pleine lune, il y a plus de chances d'accoucher que les femmes s'énervent un petit peu et effectivement, les professionnels disent,
elle est super énervée. Il fallait déjà chez le coiffeur les nids de pleine lune. Donc,
voilà, exactement. Donc, il y a cet aspect humain et c'est ça qui est intéressant d'ailleurs. Pourquoi, par exemple, on dit souvent planter les pommes de terre à la pleine lune? Alors ça, j'ai essayé de faire très très vite.
Ah bah, c'est pour ça que le petit robot est parti avec des graines de patates. Voilà, même si ça a échoué.
Mais il n'y a pas de corrélation simplement. Vous savez que quand vous voyez la pleine lune, c'est que, bah, tout simplement, c'est qu'il n'y a pas de nuages. La pleine lune, elle est là tous les 28 jours, mais souvent, vous n'y faites pas attention. Vous n'y faites attention que quand il n'y a pas de nuages. Quand il n'y a pas de nuages, il fait plus froid la nuit. Et c'est vrai, quand il fait froid la nuit, ça aide les pommes de terre à pousser. Et donc, le lien, il n'était pas du tout de la pleine lune. C'est simplement, il fallait des nuits froides. Donc, vous voyez, il y a la part d'humain dans cette relation, encore une fois.
Mais c'est ça qui est magique avec la relation à la lune, par ailleurs, hein, parce qu'elle est aussi le bouc émissaire de plein de choses. Regardez, on dort pas, c'est sûrement à cause de la pleine lune. On a sorti ça d'où? De nulle part. part, j'imagine. Une question très sérieuse, celle de Marc sur franceinter.fr, puisqu'on parlait des minerais tout à l'heure. La Lune ne pourrait pas servir, ne pourrait-elle servir, avec beaucoup de points d'interrogation, de dépotoir de la Terre pour nos déchets nucléaires, par exemple? Est-ce qu'on a envisagé ce genre de choses, Isabelle Sourbès-Verger?
Ah non, non, jamais. On a envisagé à une époque de lancer des vaisseaux avec des déchets et que ces vaisseaux brûlant dans l'atmosphère au moment du retour, ça réglerait la question par une forme de pyrolyse un peu sauvage. Mais il faut bien voir le coût de ce que ça représente. Et puis là, il y aurait absolument une levée de bouclier éthique. Et puis ça n'a aucun intérêt et aucun avantage.
Il faudrait les transporter, pas comment on ferait pour transporter.
Non, en revanche, on peut se poser la question de qu'est-ce qu'on fait des déchets qu'on a laissés sur la Lune, parce que les missions Apollo, elles ont laissé un certain nombre de choses sur place, parce que les nouvelles missions laissent aussi un certain nombre de déchets, et ça pose la question à terme de la manière de gérer nos activités sur la Lune d'une façon durable.
Laurent Tiltikem pour cette dernière question, qui nous demande d'accord servir de sorte de hub pour aller explorer, mais pour aller explorer quoi? Ça nous rapproche d'où, en fait, si on arrivait à avoir une vraie base sur la Lune, Sylvestre Maurice? C'est l'escale pour aller vers où?
Encore une belle question. Effectivement, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a 5 ans, tout le monde disait on va aller sur Mars, c'est génial Mars. Et puis depuis 2 ans, on a dit non, attendez, avant d'aller sur Mars, réapprenons l'espace, faisons un hub qu'on appelle le Gateway, les Américains l'appellent Gateway, un hub lunaire, une station qui sera en orbite elliptique autour de la Lune, avec l'idée, on retourne sur la Lune, et on réapprend et on partira vers Mars. Et d'ailleurs, écrit dans la fiche de les spécifications de cette sonde, c'est un hub pour aller un jour vers Mars ou vers les astéroïdes. La Lune est là pour, en quelque sorte, s'entraîner, développer des technologies, développer des savoir-faire. C'est ça l'idée de l'étape 1, c'est la Lune, et il y en aura d'autres après, on espère.
L'étape 1, Sophie Bécherel,
c'est la Lune. Et parce qu'on pense que ce sera moins compliqué de s'arracher à l'attraction lunaire qu'à l'attraction terrestre. Ça peut permettre éventuellement de faire des économies de carburant. Si toutefois, l'étape d'avant qui est de maîtriser les ressources lunaires pour faire du carburant est maîtrisée.
La première étape, la première chose importante qu'on pourrait faire autour de cette Lune aujourd'hui, est-ce que c'est ça? Est-ce que
c'est
ce fameux
station orbitale?
Est-ce que c'est la station orbitale, la chose la plus concrète,
on va dire? Oui, c'est la chose la plus concrète. Et je pense qu'il faut souligner, c'est peut-être parce que je suis géographe, mais il faut souligner que c'est la Lune est le seul port en quelque sorte que nous ayons depuis la Terre. C'est vrai que l'occupation de l'espace, on a du mal à l'imaginer parce que vous n'avez pas de route, parce que vous n'avez pas d'aller-retour en quelque sorte. Et là, d'une certaine manière, on retrouve des schémas qui nous sont familiers, c'est-à-dire on part d'un endroit, on va sur un autre et puis on essaie de faire un lien entre les deux et on essaie de repartir de l'autre endroit pour aller encore plus loin. Et même, les Russes à une époque imaginaient d'utiliser comme ça les bases pour conquérir la Sibérie et donc de faire des points et puis d'aller de plus en plus loin avec des relais de poste. Et d'une certaine manière, effectivement, la Lune, c'est un poste avancé et puis c'est la seule qu'on voit depuis la Terre.
Exactement. Allez, pour la Lune, changer à Châtelet. Merci beaucoup. Merci à tous pour vos nombreuses questions.